RCF.
J'ai décidé d'aller où le vent me pousse.
Ah, je sens que vous serez tout simplement génial.
Amuse-toi bien.
Ça me va.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour finir en beauté ce joli mois de mai en attendant de faire le juin demain. Alors, à l'affiche aujourd'hui, vous aimez les mots croisés? Eh bien, tentez donc la grille que le pèlerin vous propose en date du 20 février 1927. Marie von Buss mènera le jeu dans le cadre des 150 ans du magazine. Et puis, l'une a du venin, l'autre pas, mais ce ne sont pas les seules différences entre couleuvre et vipère. Agathe Dutot percera leurs secrets sous les écailles dans notre rendez-vous animalier du mercredi. Lui, c'est plutôt avec la forme du serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire en cercle, qu'il présentera son nouvel album le 6 juin prochain. Bonjour Tony Melville.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui en direct de RCF Nord de France à Lille, dont on remercie déjà l'équipe qui nous permet ce duplex. Alors Tony Melville, auteur, compositeur, interprète, mais aussi guitariste et violoniste, on précise tout de suite que c'est votre nom d'artiste. Comment vous l'avez choisi ?
Eh ben, je me suis souvenu d'un jeu que l'on faisait quand on était enfant dans les cours d'école. Il s'agissait de créer un autre nom à partir des lettres de son nom de famille ou de son prénom. Et donc ouais. Tony Melville est un anagramme de mon nom de famille.
Ouais. Et le nom de famille, on peut le donner une fois, puis on le donnera plus.
Oui, bah oui, bon, il y a rien de secret. Mon nom de famille est Villemino, et vous conviendrez que c'est un peu long et un peu dur à retenir.
Voilà, Tony Melville.
En tout cas, pour une affiche de spectacle.
Tony Melville, ça frappe tout de suite. Alors, vous venez de sortir Antitempête, c'est votre deuxième album. Pourquoi ce titre? Quels sont les vents qui soufflent sur votre inspiration? Eh bien, on va le découvrir avec vous, tout doux, dans le refuge de Tony Melville. C'est parti.
Tout doux, avec Vincent Belletti.
Allez.
Rien ne donne au-dedans, du dehors vient le vent. Rien ne donne, tout se fend, tout se tord quand vient le vent. Rien n'est mort, rien ne prend, un décor sans élan. Rien ne sort, tout se fend, s'évapore quand vient le vent. Faut pas rester dehors. Allez, sous les paratonnerres, dressez les paravents.
Voilà, extrait de Du Dehors, l'un des 10 titres de votre nouvel album. Alors sur le clip qui l'illustre, on vous voit sur une sorte de socle, en train de changer plusieurs fois de vêtements, que vous tend une jeune femme qui circule autour de vous, le tout sous le flux d'un puissant ventilateur. Alors c'est un décor de studio qui est assez surprenant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce message qui ne manque pas de souffle, hein, Tony Melville?
Oui, on a voulu faire un clip sur cette thématique de la lutte contre le vent.
Ouais.
Et on a fait ça avec une équipe de gens qui viennent plutôt du théâtre, donc avec des effets de théâtre, donc des gros ventilateurs, avec un certain nombre de costumes qui avaient déjà servi aussi dans d'autres spectacles. Et puis voilà, on a essayé de faire un espèce de grand mêle-tout, de grande aventure, de lutte contre le vent, et voilà, qui est très très libre à l'interprétation.
Oui, ça peut être lutter contre les épreuves qui vous soufflent dessus, par exemple.
Oui, ça peut être plein de choses. Ça peut être simplement les sensations physiques aussi que procure voilà la lutte contre le vent, mais aussi je me prends de la neige, je me prends
c'est vrai que vous prenez pas mal de choses sur la figure, mais vous tenez bon quand même. Un clip tout à fait original. Je vous invite à découvrir sur YouTube. Alors Tony Melville, on va revenir sur cet album Antitempête, mais comme d'habitude avant, on va faire un petit retour en arrière pour voir quel bon vent vous a amené jusque là. Vous êtes né non pas à Lille, mais à Dijon, deux parents. Je crois dans l'enseignement, mais aussi musicien amateur. De quel instrument précisément jouaient votre papa et votre maman?
Alors, ma maman pianiste, et puis mon père était organiste, hein, donc vraiment...
Organiste dans les églises
dans la... oui. Voilà, tout à fait, ouais. Donc spécialisé donc dans la musique liturgique, bien évidemment, mais aussi dans la musique ancienne, baroque.
Et est-ce que ce sont eux qui vous ont donné justement le goût de la musique?
Ah oui, et la musique, c'était quelque chose de très très central à la maison. Et j'ai eu la chance vraiment de démarrer très tôt. À côté de la maison de mes parents, il y avait une prof de violon qui était réputée pour commencer très tôt avec les enfants. Donc j'ai commencé à 4 ans et demi.
4 ans et demi, alors. Vous allez faire du violon justement classique hein, pendant 12 ans au conservatoire ensuite de Dijon. Pourquoi le violon au départ? Est-ce que c'était par hasard ou il y avait une attirance aussi particulière à manier l'archet? Ou simplement une question de voisinage, hein, puisque votre voisine faisait du violon.
Il y avait aussi le disque de Pierre et le Loup chez mes parents. Ouais. Voilà. Donc forcément, bah, quand on
célèbre
est un petit garçon, l'identification à Pierre, hein, donc, le violon dans ce conte musical de Prokofiev. Voilà.
Ouais, c'est ça qui vous a attiré. Alors en 2001, eh bien, changement de corde, hein, si je puis dire, parce que vous allez passer à la guitare. Là aussi, pourquoi ce transfert?
Je crois qu'il y a eu l'adolescence qui est passée par là, le besoin de m'exprimer différemment. Et puis, c'est vrai que le conservatoire, parfois, a des côtés un peu conservateurs.
Un peu rigide.
On peut pas sortir. Ouais. Oui, quand même. Ah, je pense que ça a bien changé hein, depuis les années 90. Mais voilà, par exemple, on ne pratiquait que la musique dite classique. Et donc, voilà, moi, j'étais très attiré par les musiques plus actuelles ou les musiques du monde folklorique traditionnel. Et donc voilà, j'ai eu une espèce de deuxième vie de musicien, autodidacte cette fois, donc en apprenant un peu tout seul la guitare, et j'avais très envie de chanter, donc c'était aussi un instrument d'accompagnement qui le permettait.
Le violon, vous ne l'avez pas non plus complètement renoncé, hein, puisqu'on le retrouve aussi dans votre dernier album, en même temps que la guitare, on y reviendra tout à l'heure. Alors par la suite, vous allez travailler sur plusieurs spectacles de danse et de théâtre, vous allez jouer avec des groupes de rock, participer à des spectacles de rue, mais aussi vous lancer en solo dans la chanson avec un premier mini-album qui sort en 2012, ça s'appelle Tentative d'évasion et avec notamment ceci.
Suis-je dans un wagon à bestiaux, avec ces veaux qui parlent fort, avec ces vieux qui parlent trop? On se tait quand je dors. Suis-je dans un wagon à bestiaux qui me conduit jusqu'à la mort? On y court tous au galop, laissez-moi oublier encore. Suis-je dans un wagon à bestiaux qui se moque de mon sort? Que fera-t-on de
dans la wagon à bestiaux, l'une des chansons de ce premier EP. Quelle métaphore il faut voir dans cette mise en train, si je puis dire, Tony Melville?
Alors moi, j'aime bien poser les questions dans mes chansons et j'aime bien que ce soit assez libre à l'interprétation en règle générale. Après, finalement, cette thématique là dont on a parlé tout à l'heure, de la lutte un peu contre les éléments, etc., puis contre les agressions du monde, on l'avait déjà, je pense, un peu.
Wagon à bestiaux, mais c'est quoi? C'est l'image de la société? On est tous un peu enfermés, c'est ça que vous vouliez dire?
Oui, et puis c'est cette chanson. Voilà, il y a de ça, puis il y a aussi très concrètement en tant que musicien, moi je voyage beaucoup, donc je passe du temps dans le train, et parfois voilà, on est entouré de gens qui sont très impolis, bruyants, voilà, la question du téléphone portable.
Ah
aussi,
oui, ça c'est un grand débat, oui.
Voilà, donc c'est des choses très très concrètes aussi
qui illustrent cette chanson. Alors vous allez récidiver après Tentative d'évasion avec deux autres EP, il y aura La Cavale et puis Plein Jour avant un premier album qui s'intitule La Relève, c'est en 2018 où entre autres vous dégainez ce tango des armes à feu.
Quand ça fait ping, je clingue. Oh là là, oh là là. Quand ça fait bling, bling. Oh, j'adore ça. Dieu n'a pas inventé le feu pour se brûler les doigts, pour réchauffer les amoureux, mais pour qu'on ait le droit d'avoir une arme à feu. Que c'est beau, même à froid.
Voilà, le tango des armes à feu, hein, qui est plutôt original, où vous dégommez des animaux de ferme et des soldats en plastique avec des pistolets à fléchettes. C'est vraiment original comme
forme. C'est la guéguerre des enfants.
C'est la guéguerre des enfants qui, malheureusement, eh bien, se transmet aussi aux plus grands. Alors, on sent un ton caustique, hein, sur les mélodies, les textes qui rappellent un peu Alexis HK, Old Olaf, Albin de la Simone, ou voire même Clarica en version féminine. C'est un peu des modèles, des références, des influences, Tony Melville.
Oui, bah oui, je crois que j'appartiens complètement à cette scène-là. Et moi, j'étais vraiment très fan aussi, à l'adolescence notamment, ce qui faisait quand même bien rire mes camarades, de Brel, de Brassens, de Boris Vian. Et donc, forcément,
pour ce côté un peu décalé.
Oui, et puis enfin l'antimilitarisme d'après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est quelque chose avec moi, je suis petit-fils de réfugiés politiques. Enfin voilà, donc il y a eu des histoires de guerre aussi très très présentes dans ma famille. Donc voilà, c'est toujours des thématiques qui m'ont parlé, quoi.
Des thématiques qui vous parlent sur la société. Il y a la solitude, il y a la vieillesse. Il y a plusieurs choses que vous voulez mettre en avant à travers vos textes.
Bon, c'est un peu ce qui passe, qui me touche. Alors, je ne sais pas vraiment analyser pourquoi parfois des thématiques qui sont assez dures ressortent comme ça. Mais voilà, je me laisse un peu porter, je me laisse un peu dépasser par les thèmes qui viennent dans l'écriture. Et puis une fois que c'est sorti, ça m'a appartient plus vraiment, je l'enregistre et puis chacun se fait
son interprétation, comme vous disiez tout à
l'heure.
Alors il y a les albums, il y a aussi la scène, et alors là vous êtes là à fond, près de 300 concerts dans différents festivals, au Printemps de Bourges, alors Chante à Montauban, Festival Jacques Brel à Vesoul, deux spectacles aussi pour enfants, la création en 2011 de la compagnie Illimitée, on en reparlera tout à l'heure, et on arrive donc à ce nouvel album Anti-Barrage qui est sorti le 5 mai dernier, on va le découvrir ensemble, ce sera juste après une première page musicale avec un de vos morceaux fétiches en dehors de votre répertoire, et en l'occurrence, eh bien, c'est Nuages, dans une version qui réunit deux stars dans leur domaine, à savoir Stéphane Grappelli au violon et Django Reinhardt à la guitare. Pourquoi ce choix? Sont vos modèles pour les deux instruments que vous pratiquez, Tony?
Oui, enfin, c'est pas forcément tant des modèles. Enfin, Grappelli dans le côté douceur, grand. Enfin, velours comme ça du son qu'il avait, voilà. Mais je trouve que c'était une musique hyper libre et inventive et cette mélodie là de Nuages, enfin voilà, au violon, je la trouve vraiment superbe.
Et Django Reinhardt en plus, c'est le bonus.
Ah bah oui, et puis c'est la liberté aussi du musicien complètement à l'instinct comme ça, c'est génial.
On va se laisser bercer par ces nuages et on se retrouve tout de suite après pour affronter la tempête. Thank you. Cage, sublime interprétation, Stéphane Grappelli, Django Reinhardt, le choix de Tony Melville, l'auteur, compositeur, interprète, et qui a lui aussi plusieurs cordes à ses instruments, et qui après les nuages, eh bien, nous annonce la tempête.
Au-delà du mauvais temps, voyez-vous, cet abri contre le vent, voyez-vous, ce refuge anti-tempête qui invite à la hauteur à relever la tête. Au-delà des idées courtes, voyez-vous, cet endroit loin de la route, au bout, parmi les moulins à plumes, un canton sans étiquette, sans loi aucune.
Voyez-vous le premier titre qui ouvre ce nouvel album Anti-Tempête sorti le 5 mai dernier. Alors Anti-Tempête, à l'origine, ce sont le nom de ces barrages qui sont édifiés aux Pays-Bas pour protéger les côtes des inondations. Est-ce qu'il y a un lien précis avec votre album, Tony Melville ?
Oui, je trouve que c'est un mot qui est chargé poétiquement, anti-tempête, que je connais depuis l'enfance. Hein, donc cet ensemble d'ouvrages, hein, pour protéger ce pays, donc cette partie des Pays-Bas qui est plus basse que le niveau de la mer. Et donc voilà, c'est des ouvrages assez impressionnants. Et puis je trouve que ça en dit long sur la nature humaine, où à la fois il y a un besoin de contrôle et en même temps un besoin d'affronter les éléments. Enfin voilà, je trouve que du coup c'est un mot qui est assez large.
Mais quelle signification, quelle métaphore on peut donner justement à ces barrages anti-tempête, refuge, abri, c'est quoi à travers cet album ?
En fait, moi j'ai écrit ces chansons notamment pendant la période du déconfinement, ouais. Covid.
Alors là, on est obligé de rester chez soi, risque d'enfermement.
Voilà. Ouais. Et donc comment on peut se protéger des agressions du monde, et puis effectivement il y a rester chez soi, mais c'était aussi cette métaphore de dire qu'il existe des zones en nous de refuge intérieur, si on veut, oui. Nous permettent de nous réfugier du flot des pensées qu'on a parfois, pensées négatives ou voilà, des valorisations, etc. Donc comme plein de gens pendant ce moment-là, j'ai eu plus de temps pour me reconnecter notamment à moi-même, hein. C'était pas forcément très volontaire, mais bon, ça s'est passé comme ça, et pour arrêter un peu la course, hein, de nos vies. Et puis voilà, j'ai découvert des choses en moi-même. Donc
c'est prendre le temps de se reconnecter à soi, hein. C'est un petit peu ce que vous voulez faire paraître à travers cet album.
Oui, tout à fait. Et puis prendre aussi le temps de faire une pause et de s'écouter à l'intérieur, et puis de savourer aussi ce qu'on est. Enfin, on passe beaucoup de temps à se corriger, à se dévaloriser, etc. Donc simplement voilà, dire bah toutes ces toutes ces choses qui peuvent venir de l'extérieur, en fait on a aussi des systèmes à l'intérieur qu'on peut activer pour s'en protéger.
Alors c'est un album qui est né aussi d'un spectacle du même nom que vous aviez créé un petit peu avant, je crois.
Voilà, tout s'est fait un peu sur cette période-là, un peu avant le Covid, et puis finalement, bon, il y a eu des décalages, etc. C'était une période complexe pour nous autres gens du spectacle. Mmh. Mais voilà, c'est un projet un peu particulier, puisque j'avais vraiment envie de changer un peu le rapport scénique habituel, hein, du concert, hein, qui est vraiment de jouer ce qu'on dit en frontal, hein, donc face au public. Et donc là, l'idée de ce spectacle, c'est d'installer le public autour des trois interprètes.
Justement, on va parler de ce dispositif scénique dans un instant, parce que c'est vraiment original, hein, comme démarche artistique. Mais si on en revient à l'album, il y a aussi les mélodies, on retrouve le violon, la guitare, mais aussi des textes chantés, mais aussi parfois parlés, voire même slamés, comme ici.
Je plie et ne romps pas, je suis bâti pour le mouvement, pour absorber le vivant, pour encaisser les chocs jusqu'à force 10 sur l'échelle du vent. Devant moi, j'ai l'éternité qui dure, ce que dure la joie, le temps d'un été ou d'un rire d'enfant, d'un regard amoureux qui me fait chavirer bien plus qu'un ouragan.
Un souffle vital. Thank you.
d'avant, plus d'après, plus d'absolu, plus de questions, plus de réponses, juste la vie.
Voilà, extrait du souffle vital où on reconnaît votre voix, également le violon qui vous accompagne ici, Tony Melville.
Alors sur le disque, à la guitare, c'est Thomas Demuin qui a aussi co-composé une partie des chansons. Et puis la voix qu'on entend, c'est celle d'Emma Pratt, voilà, une chanteuse qui est de Lille également.
Oui, et qui est une voix superbe qui accompagne absolument ce texte. Alors il y a la musique, il y a aussi cette poésie des mots hein, pour célébrer la vie, la nature, comme dans Loin des chemins de ronde, qui est un autre titre de l'album, encore le sentiment amoureux, comme cette très belle déclaration qui est très sensuelle, qui s'appelle Faire le tour. Je ne sais pas comment naît l'inspiration chez vous, Tony Melville.
Souvent, c'est un peu une amorce, c'est-à-dire il y a un petit bout de phrase qui n'a pas forcément une signification particulière et un petit bout de mélodie qui va avec. Et à partir de là, bah, je me laisse un petit peu emporter et puis ben, je vois où ça m'amène. Et puis au bout d'un moment, bon, il y a un travail qui est plus, on va dire, laborieux, pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais pour justement faire rentrer un peu le texte, ouais, enfin, voilà, lui donner quand même une direction assez claire. Mais voilà, souvent ça part d'un tout petit truc, quoi.
Mais il y a une musicalité des mots aussi que vous essayez de retranscrire, il n'y a pas que la musique.
Ah oui, bah voilà.
C'est pas les mots au hasard non plus. Hein.
Ah oui, bah le français est ma langue maternelle. Je trouve qu'il y a des mots qui sonnent en musique. Il y en a d'autres beaucoup moins. Enfin, en tout cas, dans ma bouche. Donc voilà, il y a vraiment ce travail-là qui fait que un texte de chanson n'est pas un texte de poésie. C'est un texte qui est fait pour être chanté.
Alors dans cet album, il sera présenté en concert le 6 juin prochain à Paris sous une forme scénique circulaire, hein, vous en avez parlé. Alors pourquoi justement ce dispositif? On le découvrira dans un instant, mais le mercredi, eh bien, on se replonge dans le passé à l'occasion des 150 ans du magazine Pèlerin, fêté cette année. Et pour nous guider dans ces archives, Marie-Vonne Buss, elle est rédactrice en chef et aujourd'hui, eh bien, avec elle, on va jouer le jeu.
Tout doux. 150 ans d'histoire avec le Pèlerin.
Bonjour Marie-Yvonne Buss.
Bonjour Vincent.
Alors cette semaine dans votre rubrique d'archives, vous nous proposez de jouer, mais pas n'importe quoi, puisque vous invitez les amateurs à remplir la grille de mots croisés publiée dans Pèlerin le 20 février 1927. Pourquoi cette date précisément ?
Ben, tout simplement parce que c'est la première grille que nous ayons jamais publiée. Elle est de difficulté moyenne et inaugure les pages jeux qui existent toujours aujourd'hui dans notre hebdomadaire et sont très appréciés de nos lecteurs. D'ailleurs, question mots croisés, savez-vous Vincent que nous avons aussi publié, c'était le 28 novembre 1997, un mot fléché géant à l'occasion du numéro 6000 et qui comportait donc 6000 cases.
Alors ça, je l'ignorais. C'était un record en la matière, Marie-Yvonne ?
Ah oui. Alors, il a peut-être été battu hein, depuis, mais à l'époque, il a été officiellement entériné par le livre Guinness. Donc, excusez du peu, on était assez fiers de ce record. Mais nous n'avons tout de même pas récidivé pour nos 150 ans, parce qu'il aurait fallu alors un dépliant spécial avec 150 000 cases pour être accord avec notre anniversaire.
Effectivement, je comprends la difficulté de mise en page. Mais j'imagine aussi, Marie-Yvonne, que en 150 ans, les pages jeux ont bien évolué aussi.
Oui, bien sûr. Alors, au début du XXe siècle, ce qui est amusant, c'est qu'on parsème les jeux de petites blagues, style almanach Vermeaux. Le Pèlerin, il publie énormément de devinettes, des petites histoires rigolotes, des dessins d'humour.
Est-ce que vous pourriez nous donner un petit exemple comme ça, pour en avoir un petit goût ?
Alors, je vais vous en lire une. Vous verrez qui est bien innocente. Alors, je vous lis. Leçon d'histoire naturelle. Le maître. Élève Galurin, dites-moi quel est le meilleur moment pour cueillir les cerises. L'élève, après réflexion... Quand il n'y a personne dans le jardin, monsieur. Et ça, c'était dans le Pèlerin du 20 février 1927.
Bon, c'est très innocent, on va dire. Hein,
oui, effectivement. C'est toute une époque qui était sans doute encore bon enfant. Enfin, au niveau des blagues, parce que dans les pages d'actualité du journal, au même moment, on pourfend les hommes politiques avec une rare violence qu'on imagine mal d'ailleurs aujourd'hui. Et on rit dans les pages jeux avec ses plaisanteries potaches.
Alors, il y a ces jeux, mais parmi les services que le Pèlerin rend aussi à ses lecteurs, il y a ces fameuses pages de petites annonces.
Oui, absolument. Mais elles vont apparaître bien plus tard, en 1973 seulement. Et on est frappé par la variété des rubriques et le nombre de propositions de logements de vacances, notamment. Une pratique qui est en plein développement à cette époque-là, dans la petite classe moyenne française. Et puis, si on regarde d'un peu plus près, ben, on voit des rubriques vin, élevage, produits régionaux, qui montrent bien l'ancrage de nombreux lecteurs dans le monde agricole.
Alors, il y a ces petites annonces, mais il y a aussi parmi elles des annonces matrimoniales.
Effectivement, leur parution va commencer quelques mois plus tard. Et ce sont souvent en réalité des agences spécialisées qui promettent des rencontres sérieuses entre jeunes femmes et jeunes hommes, qui précisent évidemment qu'ils sont des catholiques pratiquants.
Si je comprends bien finalement Marie-Yvonne, dans cette rubrique d'archives, en fait c'est toute une époque qui surgit.
Oui, tout à fait Vincent, et c'est ça qui est passionnant, c'est que grâce à cette plongée que nous effectuons maintenant depuis septembre dans nos archives, nous voyons se dessiner un visage de la France modeste, mais pas misérable, pieuse, mais curieuse d'apprendre, de s'ouvrir au monde, de débattre, de préparer l'avenir. Au fond, tous ces points communs qui relient nos lecteurs d'hier à ceux d'aujourd'hui.
Et ça continue. Eh bien, merci Marie-Yvonne pour ce retour sur l'histoire du pèlerin. Et pour en savoir davantage, eh bien, vous retrouverez cette double page avec donc cette republication de cette grille de mots croisés. Ce sera dans le numéro de cette semaine du pèlerin en kiosque à partir de jeudi. Merci Marie-Yvonne et à la semaine prochaine.
Merci Vincent.
Doudou avec Vincent Belletti.
Alors Tony Melville, vous qui aimez bien manier les mots dans les textes de vos chansons, je ne sais pas si vous aimez jouer aussi aux mots croisés.
Pas spécialement, mais cette rubrique m'a beaucoup rappelé ma grand-mère.
Oui, c'est-à-dire qui lisait le pèlerin.
Bon, c'est-à-dire que oui, d'une part, je pense qu'elle était abonnée. Ouais. Et puis après, oui, je pense qu'elle jouait. Elle jouait.
Et le pèlerin, vous y jetiez un œil de temps en temps pour.
J'étais vraiment enfant, hein, donc ouais. Je pense que j'étais un peu.
Il y avait une bande dessinée qui s'appelait Patapouf, hein, à l'époque, si je me rappelle bien. Il y avait des petits jeux comme ça pour les enfants aussi. C'est un magazine familial, hein, toute la famille pouvait effectivement s'y référer. Allez, en 7 lettres, si je vous dis violente perturbation atmosphérique, vous me répondez quoi?
Tempête.
Bah oui, tempête. Eh bien, pour nous aider à la surmonter, à nous protéger, il y a donc Anti-Tempête, titre de votre dernier album. On va continuer à le découvrir, de même qu'on ira faire un petit tour dans la nature à la rencontre d'animaux pas forcément sympathiques. À tout de suite.
Doudou avec Vincent Belletti.
Et retour sur le plateau de Toudou avec notre invité du jour, Tony Melville, auteur, compositeur, interprète, violoniste et guitariste, qui vient de sortir son deuxième album, Anti-Tempête, un album invitation à ne pas nous laisser submerger par nos idées noires, à prendre du recul et à trouver notre espace refuge. Se mord la queue, on vient de l'entendre dans cet extrait Anti-Tempête. Et bien justement, un serpent qui se mord la queue, bah ça peut ressembler à un cercle et c'est sous cette forme que vous allez présenter cet album en concert le 6 juin prochain au Café de la Danse à Paris. Pourquoi ce dispositif, cette scène circulaire, Tony Melville?
Alors l'idée est née en prison. Alors j'ai animé plusieurs fois des ateliers d'écriture, des rencontres comme ça avec les détenus. Et puis une fois, on s'est retrouvés avec les détenus tous placés en cercle dans une salle, donc on était je sais pas une dizaine, et sur des chaises. Et puis on a discuté. Et puis j'ai chanté des chansons et j'ai trouvé qu'il y avait une atmosphère très particulière, une écoute très particulière, très belle, très très pure. Chacun se voyait puisqu'on est en rond, mais en même temps chacun était dans sa petite zone, dans sa petite bulle, et voilà, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc je me suis dit, mais voilà, j'ai envie de faire un spectacle, un concert comme ça dans ce genre de dispositif.
Ouais, mais c'est quand même un peu déstabilisant, hein, pour l'interprète principal, parce que il y a tous ses yeux. Alors, d'habitude c'est frontal, hein, il y a la scène et puis l'interprète devant. Là vous êtes en face de d'œil circulaire comme dans une arène, hein.
C'est C'est très particulier puisque en fait il faut accepter que on chante de dos à des gens tout le temps en fait. Ouais. Et donc on a beau dans la mise en scène avoir des repères assez précis pour que les choses soient assez équilibrées, des fois on chante, on tourne le dos à une partie du public. C'est comme ça, ça fait partie de ce dispositif là, mais du coup ça crée aussi une grande
proximité,
une intimité particulière.
Alors la scène, elle sera pas vide, hein. Vous avez aussi une structure centrale qui ressemble à un arbre. Est-ce que vous pourriez nous planter le décor ?
Oui, comme il y avait cette histoire d'équilibre et puis de recherche un petit peu de solutions, de refuges, etc. Voilà, on est parti sur ce principe de mobile. Donc c'est un mobile comme on peut trouver dans une chambre d'enfant, sauf que voilà, il fait une dimension plus importante, bien évidemment. Et voilà, et donc Anne Fraîche, qui est musicienne, chanteuse et comédienne, et qui également avec moi dans ce spectacle, a une partition aussi. Elle vient équiper ce mobile, de petits éléments de décor. Voilà, ça crée quelque chose d'un peu magique comme ça, comme un truc un peu rituel presque. Et donc tout ça se met un peu en route au fur et à mesure du spectacle.
On sent à travers votre démarche qu'il n'y a pas que le simple fait de chanter qui vous anime, mais aussi d'associer la danse, le théâtre. Je ne sais pas si c'est dans cet esprit que vous avez créé votre compagnie Illimitée. Compagnie Illimitée, c'est son nom en 2011.
C'est exactement ça. Voilà, je voulais trouver un nom de compagnie, de maison, un peu de production, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Qui puisse ouvrir un peu le champ de ma discipline en fait. Donc la chanson aux autres disciplines du spectacle vivant que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que ça amène beaucoup de richesse aussi de travailler. Donc là, en petite tempête avec le metteur en scène Didier Cousin, avec Élodie Segui qui est aussi quelqu'un qui vient du théâtre, qui a vraiment bien travaillé sur la scénographie, sur la dramaturgie. Voilà, je trouve que ça enrichit mon propos. Moi, ça me décale, ça me force à remettre en question un certain nombre d'habitudes. Enfin voilà, je trouve ça vachement intéressant.
Alors, on parlait de serpents dans l'extrait qu'on a entendu. Eh bien, justement, de reptiles, il va en être question dans notre rendez-vous animalier du mercredi. Et c'est Agathe Dutot des éditions Fleurus qui nous entraîne à leur rencontre.
Alors, comment ça va, chien normal ?
T'es super fort !
Mais on est plus fort que ce que vous croyez.
Tout doux, incroyables animaux.
Et bonjour Agathe !
Bonjour Vincent.
Alors, il n'y a pas que dans la jungle ou la savane qu'on peut trouver des serpents, mais aussi dans nos forêts, principalement des couleuvres et des vipères. Mais comment les différencier ? Quelles sont, on va dire, leurs premières particularités ?
Alors d'abord, leur habitat. Les couleuvres vivent principalement dans des milieux humides et les vipères, quant à elles, supportent les fortes chaleurs. Et puis par leur morsure, celles de la couleuvre ne sont pas dangereuses, contrairement à la vipère dont le venin peut être mortel.
Alors justement, comment est-ce qu'elle s'y prend, la vipère, pour injecter son venin ?
Eh bien, pour commencer, elle possède une paire de dents en crochet à l'avant de sa mâchoire, et ces crochets fonctionnent comme une seringue, puisque le venin passe par là lors de la morsure. La vipère attend donc qu'un animal passe près d'elle pour le mordre d'un coup fulgurant. Ensuite, l'animal s'enfuit, mais il meurt peu de temps après, ce qui permet à la vipère de le suivre tranquillement grâce à son odorat et à sa vue.
Voilà, rien ne sert de courir, il faut partir à point, et avec la vipère, les victimes sont vite au point mort, si je puis dire. Et la couleuvre, s'il n'a pas de venin, comment est-ce qu'elle s'y prend pour attraper ses proies ?
Eh bien, elle ne mord pas, mais elle l'étouffe. Et pour ça, elle est très agile et rapide, ce qui lui permet de suivre facilement ses proies. Une fois qu'elle en a attrapé une, elle l'étouffe donc, mais sans briser ses os. Et autre détail, lorsque la température du corps de la couleuvre est trop basse, elle ne mange pas, car elle a une digestion difficile et ça pourrait entraîner sa mort.
Voilà, on comprend mieux pourquoi elle ne vit pas au pôle Nord. Cela dit, si on se balade en forêt, comment est-ce qu'on distingue les couleuvres des vipères ? Parce que ça serait quand même bien d'éviter une morsure venimeuse pendant une promenade.
Et c'est une très bonne question. Alors déjà, physiquement, ces deux espèces ne se ressemblent pas. La tête de la couleuvre est allongée et ronde avec des pupilles rondes, tandis que celle de la vipère est triangulaire et aplatie avec des pupilles fendues de haut en bas. Ensuite, la couleuvre a des écailles larges et plates, alors que la vipère a de petites écailles qui dessinent un V.
Voilà, V comme vipère ou V comme venin, la boucle est bouclée. Pour terminer, est-ce que vous avez une dernière petite anecdote à nous partager sur ces deux rampants à écailles, Agathe ?
Oui, bien sûr, la couleuvre est tellement rusée que lorsqu'elle est en danger et qu'elle ne peut pas s'enfuir, elle fait semblant d'être morte en renversant sa tête à l'envers, la gueule ouverte. Et en plus de ça, elle dégage une odeur très désagréable pour dissuader totalement ses assaillants.
Voilà, la ruse qui pue. Et la vipère, elle a quoi comme originalité ?
Alors, elle n'est pas comme tous les serpents parce qu'elle garde les œufs qu'elle pond dans son propre corps pendant toute l'incubation. Et du coup, une fois qu'elle les expulse, les petits n'ont qu'à déchirer la membrane pour sortir de l'œuf.
Voilà, et à nous de marcher sur des œufs pour éviter de les rencontrer. Agathe, comment est-ce que vous êtes devenue experte en couleuvre, en vipère ? Vous êtes déjà fait mordre, vous voulez absolument témoigner ?
Non, pas du tout. C'est grâce à la grande imagerie des animaux de la campagne, publiée aux éditions Fleurus. Dedans, on découvre la vie des hérissons, de la grenouille ou encore du lapin, et bien évidemment de la couleuvre et de la vipère.
Eh bien, merci Agathe pour cette balade rampante. Et comme elle n'a pas non plus une langue de vipère, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine avec Claire pour de nouvelles histoires d'animaux incroyables. Bonne fin de semaine à vous, Agathe.
À vous aussi.
Aie confiance, oui, crois en moi, que je puisse veiller sur toi.
Doudou avec Vincent Belletti.
Voilà, et confiance, vous avez reconnu le Python K, un sorceleur du livre de la jungle. Je sais pas si vous avez vu ce dessin animé quand vous étiez enfant, Tony Melville.
Oui, bah oui, puis je l'ai revu récemment en tant que papa. Ouais. Mais c'est étonnant en fait hein, cette histoire du serpent qui se mord la queue, parce que effectivement, donc au moment où j'ai cherché un peu toutes les expressions dans les différentes langues, là, cette séquence qu'on a entendue tout à l'heure, sur la page Wikipédia du serpent qui se mord la queue, ben voilà, on apprend qu'effectivement avec les petits crochets, une fois que il a commencé à se mordre la queue, il peut plus faire machine arrière, donc il meurt. Bon, apparemment, c'est vraiment très rare. Hein,
c'est très rare,
notamment en captivité. Plus en captivité que dans la nature, d'ailleurs.
En tout cas, l'enfance, vous y êtes aussi sensible dans votre démarche artistique, puisque vous avez créé deux spectacles pour jeunes publics dans des rythmes un peu différents de celui de votre dernier album. On va en parler juste après une deuxième page musicale avec un extrait justement de cet album, Antitempête. Ça s'appelle En Voyage. Voyage où ? Dans l'espace ou dans le temps ? Comment est-ce qu'on peut l'interpréter, Tony Melville ?
Peut-être à l'intérieur aussi, c'est peut-être un voyage immobile. Moi, j'aime bien cette idée de dire que parfois, en restant immobile, il peut déjà se passer plein de choses. Et puis voilà. Mais bon, c'est aussi un voyage dans des destinations célèbres.
Dans des destinations célèbres. En voyage, eh bien, on va partir avec vous et puis on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette émission.
Au-delà des Amériques, aux confins du Sahara, dans tous les recoins de l'Afrique et du côté d'Ankara, tout en haut des pyramides, en amont de la Volga, je n'ai jamais pris de guide d'Odyssée en Aléa. J'ai passé ma vie en voyage, j'ai traversé les océans, je me souviens de tout, du moindre rendez-vous d'avant. Bien plus loin que les limites, et bien plus loin que les lois, loin des vies que l'on imite, j'ai ouvert ma propre voie. Plus loin que le vent du large, que l'écume et les embruns, j'ai laissé le pas de charge à la croisée des chemins. J'ai passé ma vie en voyage, j'ai traversé les océans, je me souviens de tout, du moindre rendez-vous d'avant. J'ai passé ma vie en voyage, j'ai traversé les océans, les reconnaissez-vous, ces rides sur mes joues d'enfant. laisser les Amériques, les confins du Sahara, tous les recoins de l'Afrique, Gizeh et Saqqara. Au revoir les pyramides, et tant pis pour la Volga. Me voilà face au vide, oiseau sans voix. J'ai passé ma vie en voyage, j'ai traversé les océans, je me souviens de tout, du moindre rendez-vous d'avant. J'ai passé ma vie en voyage, j'ai traversé les océans.
En voyage, là où nous emmenait Tony Melville, notre invité du jour, chanteur, auteur, compositeur, mais aussi violoniste et guitariste. Vous les avez vraiment tous faits, tous ces voyages-là, Tony Melville, hein, c'est né de votre imagination?
Ah, j'en ai fait quelques-uns, mais je ne les ai pas tous faits. Ouais. Je les ai pas tous faits. Oui, bah, c'est des destinations célèbres. Et puis voilà. Mais je trouve ça. Enfin voilà, c'est évocateur de plein de choses. Et puis la musique, l'arrangement que nous a pondu Jean-Bernard Host, vraiment plein de nostalgie aussi dans les sons. Voilà, il y a des choses un peu vintage pour les amateurs de vieilles boîtes à rythme, de sons un peu qui crépitent comme ça derrière. Il y a cet état d'esprit là.
Ah bah, c'est pour ça que ça m'a plu. C'est vintage, donc ça m'a plu, vu mon grand âge. Voilà. Alors, Tony Melville, vous ne jouez pas que pour les grands, il y en a aussi pour les plus jeunes.
Pirate. Je serai pompier ou cosmonaute, marin pêcheur ou garde-côte.
Je serai comique et comédien ou contrôleur de billets de train.
Je serai conducteur de gros camions ou bien sculpteur ou forgeron.
Anthropologue en Australie ou psychologue pour un wapiti.
Je me ferai peut-être prêtre dans une chapelle, cultivateur de Mirabelle.
Je veux bien planter des choux ou casser des cailloux.
Je serai collectionneur de boutons, éleveur de chèvres et de moutons.
Je me verrai bien compositeur, peut-être même chanteur. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai pas un pirate, un mercenaire en collant pirate.
Et surtout, je ne serai pas pirate, extrait de Quand je serai petit, un des deux spectacles avec Manque à l'appel, où vous êtes associé au producteur électro hip-hop Usmar. Comment elle est née cette collaboration, Tony Melville?
On a eu vraiment tous les deux envie de marier nos univers qui sont très différents musicalement, hein, et de proposer une forme donc à destination de l'enfance mais de la famille, hein, de manière assez large, voilà, qui soit un peu un assemblage entre nos deux univers. Et on a fait appel à la metteuse en scène Marie Levavasseur, voilà, qui a notamment mis en scène beaucoup de spectacles à destination des enfants, et pour inventer une espèce de forme un peu entre deux, entre théâtre et chanson.
Il y a un message particulier que vous avez envie d'envoyer aux jeunes générations à travers ce spectacle, Quand je serai petit?
Bah, quand je serai petit, c'était voilà, qu'est-ce que ça veut dire grandir, jusqu'à quel âge on grandit, et puis voilà, cette éternelle question, hein, dans cette chanson pirate, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, et j'ai parfois moi encore l'impression à 40 ans d'être un enfant, enfin en tout cas d'avoir conservé une sacrée part d'enfance en moi.
Mais c'est bien de garder une part d'enfance aussi, non?
Oui. Ouais. Il y a parfois on manque de temps pour ça, hein, dans nos vies, mais j'essaie de le prendre. Et puis mon métier me le permet quand même d'être aussi dans la fantaisie. J'ai cette chance-là.
Tony Melville dans cette émission. Alors nous avons aussi un petit barrage à franchir, hein, pour nos invités, et c'est une forme de petite boîte.
La boîte à tout doux.
Voilà, vous voyez ce petit coffret. Alors, à l'intérieur, il y a des cartes et au-dessus de chacune, une question mystère. Alors, le principe, il est simple. Je vais battre le jeu. On va tirer trois cartes au hasard. À vous de répondre à la question. Ben, je vous rassure, il n'y a rien d'indiscret. Et de toute façon, c'est vous qui avez la réponse. Alors, je vais battre ce jeu. Et puis, vous m'interrompez quand vous voulez pour sortir la première carte.
D'accord.
Je bats.
C'est parti.
Alors, c'est parti. Top. Allez. Un mot que vous n'aviez pas compris quand vous étiez petit.
Ah ouf, un mot que j'avais pas compris. Cynisme.
Cynisme. Ah ouais.
Oui, mais ouais. Ouais, je viens d'un milieu où les gens étaient pas. L'était pas, en tout cas. Et, et voilà, j'ai eu cette chance d'avoir une éducation, voilà, pleine de premiers degrés et de choses positives, agréables, avec cette envie de faire, de fabriquer, d'apprendre, d'entreprendre, etc. J'ai cette chance-là.
Donc cynisme, vous avez, c'est un mot qui, voilà, qui par ses peut-être ses syllabes, ses voyelles, ça vous paraissait un petit peu étrange.
Oui, puis c'est pas un concept auquel j'avais spécialement, comment dire, accès. Enfin, accès, j'aurais pu bien sûr y avoir accès, ouais. Mais avant l'adolescence, voilà, je pense que c'est quelque chose qui était un peu hors de mon univers. Mmh. Tant mieux d'ailleurs, je crois.
Ouais,
je crois que si on peut protéger les enfants de ça,
ouais, du cynisme,
le monde des adultes qui les attend en est plein. Donc
ouais. Voilà, le cynisme, on traduit une forme de mépris, hein, si on peut traduire ça comme ça. Voilà.
Oui, voilà. Et puis une espèce de manque, en tout cas, d'espoir. Donc, voilà,
et de considération.
Ouais, je crois qu'il faut absolument.
Ah voilà, pour ce mot cynisme à bannir de notre vocabulaire. Alors, on continue de battre le jeu et puis je tire la carte, la deuxième carte quand vous voulez. Allez, je bats.
Allez, c'est parti.
C'est parti.
Top.
Une odeur que vous aimez particulièrement.
Une odeur que j'aime particulièrement.
Un parfum.
Le café, l'odeur du café.
Ah oui?
L'odeur du café, oui.
Ouais. Oui. Pourquoi l'odeur du café?
Je suis un grand buveur de café. Bah, parce que le café, c'est un peu une drogue, hein, pour moi.
Ouais.
Alors, j'essaie de pas trop en boire.
Vous êtes capable d'en boire combien de tasses par jour?
Moi, je m'arrête à 4.
C'est raisonnable quand même, 4.
Ouais. Oui. C'est raisonnable. Mais ça a vraiment un effet incroyable sur moi, quoi. Quand je suis en manque de café, je sens l'odeur, ça réveille en moi. Je serais prêt à tuer ma mère. Non, j'exagère. Mais...
Et vous avez, je sais pas, un café de prédilection, je sais pas moi, Arabica ou Robusta, d'un pays en particulier, comme un grand cru.
Je suis pas assez spécialiste pour ça, mais oui, plutôt des cafés doux.
Ouais.
Voilà, comme votre émission.
Tout doux, voilà, bien vu. Allez, on va battre le jeu pour une toute dernière carte. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Allez, on y va.
On s'arrête là. Ouais.
Si vous étiez un animal, ça serait quoi, Tony Melville?
Je crois que ce serait le paon.
Ah bon? Pourtant, le paon, symbole d'orgueil aussi.
Oui, c'est vrai. Symbole d'orgueil. Non, mais je pense au paon en ce moment parce que je suis en train d'écrire un troisième spectacle à destination des enfants qui s'appelle En apparence et qui parle de la question du vêtement, comment on se présente au monde.
Oui.
De l'apparence. Et c'est le troisième spectacle que je fais avec Marie Levavasseur, cette metteuse en scène de théâtre. Et donc voilà. Forcément, bah, il y a l'histoire du caméléon, et puis il y a l'histoire du paon aussi, qui symbolise quand même beaucoup de choses par rapport à aussi, voilà, les vêtements qu'on porte. Donc voilà, le paon fait la roue, et puis il a ce superbe plumage, mais qui l'encombre aussi, hein, qui fait qu'il est un animal assez maladroit finalement.
Donc c'est un animal, mais à raison de ce spectacle, hein, vous n'êtes pas un paon par nature, orgueilleux.
Non,
on le sent pas quand même à travers votre démarche, réservé, plutôt timide, voilà. Donc le paon, c'est simplement pour ce spectacle, hein, rassurez-nous.
Voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est pour la parade. C'est bien aussi de se montrer sous son meilleur aspect.
Sous son meilleur aspect. Eh bien, merci d'avoir répondu à ces questions. La petite boîte, eh bien, elle va aller faire dodo et on la rouvrira demain pour notre prochain invité.
Doudou avec Vincent Belletti.
J'ai beau faire le tour de ton dos, pour la millième fois, je découvre ta peau, tes contours, comme la première fois. J'ai beau faire le tour de ton dos, encore une fois, je découvre à nouveau des détours. J'avance tranquille dans tes sillons.
Extrait de Faire le tour, une chanson à la fois sensuelle et poétique qu'on retrouve dans votre dernier album Sans indiscrétion. Vous l'avez dédié à quelqu'un en particulier, Tony Melville?
C'est une question tout à fait indiscrète. Oui, oui, bien sûr. J'avais une idée derrière la tête.
Une idée derrière la tête. En tout cas, cet album, eh bien, on pourra le découvrir en concert circulaire, donc le 6 juin prochain au Café de la Danse à Paris. Ça commence à quelle heure, l'heure du rendez-vous ?
Alors, les portes ouvrent à 19h30 et ça commence à 20h.
Ça commence à 20h. On n'a pas besoin de caouet ou d'impair hein, pour affronter la tempête, hein, vous nous rassurez là-dessus.
Non.
On vient non, comme on veut.
De rien, on s'occupe de tout.
On s'occupe de tout. Et donc la scène, on l'a bien compris, sera circulaire. Pour celles et ceux qui auraient raté ce rendez-vous, est-ce qu'il y aurait une tournée pour accompagner la sortie de cet album ?
Oui, parce qu'on enchaîne, on sera le 1er juillet dans l'Oise pour un festival qui s'appelle Village en fête. Mm-hmm. Et puis après, on va à Avignon tout le mois de juillet, donc entre le 7 et le 28. On joue tous les jours à 9h45 le matin à La Fraîche, à Présence Pasteur, qui est une des salles du festival Off d'Avignon.
Voilà, mais écoutez, on sera ravis de vous retrouver là-dessus. Alors pour tout renseignement, moi je renvoie les auditeurs à votre site, hein, c'est tonymelville.com. Alors ça s'écrit Tony, TonyMelville.com. On pourra découvrir votre parcours, votre actualité, des extraits vidéo ou audio de vos productions. Un grand merci Tony Melville d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment un plaisir de découvrir votre univers à la fois poétique et puis aussi rassurant. Merci aussi à RCF Nord de France, notamment à Madeleine Vatel que j'ai aperçue dans votre dos, qui nous a permis ce duplex. Merci aussi à Hugo Vincent qui a maintenu le cap dans la tempête dans sa cabine en régie technique. Alors je ne sais pas si vous aimez les contes, Tony Melville, quand vous étiez petit, qu'on vous en raconte.
Ah bah oui, bien sûr, ouais. Je suis toujours un bon client.
Un bon client, et bien justement demain, ouais. Vous allez être tout à fait satisfait parce que notre invité sera justement un spécialiste du genre. Il s'appelle Henri Gougaud, il vient de publier chez Albin Michel « Contes impatients d'être vécus », des petits récits fantastiques de toute époque et de tout pays qui sont autant de petites leçons de vie, et on se laissera embarquer avec lui sur ses chemins du conte. Nous, on va se quitter en musique avec votre dernier choix musical, et c'est sur la place Dom La Nena, Rosemary Stanley, Birds on Wire, un mot rapide sur ce titre que vous avez choisi, Tony Melville.
Ah bah, je trouve que c'est un duo qui est vraiment super. C'est ces deux femmes là qui marient leur voix et puis le violoncelle notamment de Dom La Nena. Et voilà, je les ai vus en concert. J'ai écouté les disques. Enfin voilà, je trouve que c'est super. Je connaissais Rosemary Stanley de son groupe Moriarty. Enfin voilà, je trouve que c'est super. Et puis bah voilà, elles ont fait cette reprise de Brel sur la place. Voilà, qui est une chanson qui a traversé mon adolescence. Donc,
eh bien, on va partir voilà ce choix. Sur la place avec vous. Bon début de soirée à tous et à toutes à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame.
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi certains jours paraissent une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant charité, le soleil, la peine, le jour et le diable, la beauté. Sur la place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient, ni guitare, ni tambour. Certains jours paraissent une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté.